Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la septième séance, hélas en ligne, de notre cours de cette année intitulé Histoire mondiale du Louvre. Depuis l'introduction, ce que j'essaye de faire avec vous, c'est ce que je tente avec vous, c'est l'écriture ou l'élaboration d'une histoire relationnelle de l'institution, de ses liens avec le reste du monde et du regard que le reste du monde peut porter sur elle. Nous sommes d'abord dans la première séance approchés d'elle par les lieux et nous avons, en tournant autour de son architecture, tenté d'en saisir la part étrangère. Dans la deuxième séance, nous sommes entrés avec des visiteurs et notamment des visiteurs venus, de pays très éloignés de l'Europe, avec d'autres, habitudes de vue, avec d'autres épistémologies, d'autres ordres de savoir. Et nous avons tenté de voir quel pouvait être le regard qu'il ou elle portait sur l'institution, y compris des regards militants, activistes. Puis, dans les trois séances qui ont suivi, intitulées « Écoles étrangères, le Louvre et la Bible et géopolitique des fouilles », nous avons en fait suivi la typologie même de l'institution qui est organisée en 8 départements et nous en avons suivi 3, le département des peintures et en voyant comment ce département des peintures, qui est avant tout européen, a tout de même entretient des liens avec d'autres continents, notamment, et je vous montre ici ce tableau de Nicolas de l'Argilière, notamment parce que certains de ces tableaux sont actuellement des prêts de l'étranger, et dans ce cas précis du musée des Beaux-Arts d'Alger, c'est un reste, une conséquence de la colonisation française en Algérie. Nous avons étudié d'autres exemples. Dans la seconde séance, le Louvre et la Bible, seconde séance typologique, pour ainsi dire, nous nous sommes intéressés à l'histoire du département des Antiquités orientales et nous avons vu combien les fouilles du 19e siècle avaient un écho dans les années 1970 du 20e siècle. Je vous montre ici deux captures d'écran d'un journal de France 3 où nous voyons Raymond Barre, alors Premier ministre de la France, en visite chez Saddam Hussein en Irak en 1979, à un moment où l'Irak réclame une pièce arrivée en France autour de 1900, le code d'Hammurabi, affaire extrêmement connue et sensible. Et puis, dans le troisième moment où nous sommes intéressés à un département, il s'agit du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Et là aussi, nous avons vu comment les fouilles étaient organisées de manière suscitée par des constellations géopolitiques précises, notamment dans l'Empire ottoman, d'une part, et d'autre part, comment dans le contexte géopolitique, par exemple de la guerre froide, la victoire de Samothrace, qui avait été prise comme une victoire française, comme un trophée français au XIXe siècle, a pu être resymbolisée autrement après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à devenir, par exemple, à Berlin-Ouest, un symbole de démocratie et le symbole du génie de l'Europe. Aujourd'hui, le cours est intitulé Dedans, dehors, et les plus attentifs et les plus attentives d'entre vous vont se dire, mais quoi, c'est pas exactement ce qui était annoncé. En effet, je vous dois quelques explications sur le changement des chapitres qui vont nous occuper à partir de maintenant, les 3 derniers chapitres. J'avais prévu d'évoquer aujourd'hui le Louvre dans les guerres mondiales, mais j'ai repoussé, comme vous le voyez ici, le cours sur les guerres mondiales à la prochaine séance. Et en revanche, je fais venir aujourd'hui le cours qui devait être le dernier cours intitulé Musée disparu, que je fusionne avec le cours prévu la semaine prochaine qui s'intitulait Afrique. Et cette fusion entre les musées disparus et la séance consacrée à l'Afrique s'intitule aujourd'hui Dedans, dehors, tandis que la dernière séance, pour sa part, sera consacrée aux fécondations qui ont pu s'opérer à l'intérieur de l'institution. Alors, lançons-nous dans le chapitre intitulé Dedans, dehors, qui sort maintenant de la typologie par département du Louvre et qui va essayer une lecture transversale des départements en s'intéressant à des musées qui n'existent plus aujourd'hui dans le Louvre et en posant la question de la raison pour laquelle il n'existe plus ces départements. Donc, premièrement, musée disparu, première partie du cours d'aujourd'hui. Deuxième partie, le musée africain, c'était son nom, qui n'existe plus non plus. Et troisième partie, session, scission. Et puis pour commencer, comme toujours, un objet du jour. Cet objet est une grande affiche, une affiche qui a pu être vue par certaines et certains d'entre vous dans le métro parisien il y a 21 ans, en 2000. Il s'agissait en 2003, en fait, pour celle que vous voyez ici, d'une campagne qui attirait l'attention sur la présence au Louvre de collections d'art qu'en France, on avait commencé de nommer à cette époque-là les arts premiers. Campagne de 2003 qui faisait suite à une campagne de 2000 que vous voyez ici, où il n'y avait pas de mise en relation entre les collections. Les œuvres étaient seules, les œuvres photographiées en très grand, seules. Celle-ci a l'air d'ailleurs un peu peut-être mélancolique ou déprimée. Elle vient d'Océanie et elle parle, elle est un sujet qui s'adresse à la population du métro parisien et dit et affirme « je suis au Louvre ». Peut-être aussi « je suis très seule au Louvre ». Cette campagne a été liée à l'ouverture de ce qu'on appelle à Paris le pavillon des sessions, qui est une salle d'une centaine de mètres carrés à l'intérieur du Louvre, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et elle ne concernait pas seulement des œuvres venues d'Océanie, elle mettait en scène les quatre continents qui fonctionnent avec l'Europe, les autres continents si on veut, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, toujours avec cette affirmation qui semblait venir du fond noir et de l'objet bien éclairé, bien seul au centre de l'affiche, donc qui parlerait en quelque sorte lui-même, peut-être avec une certaine fierté, en tout cas avec le besoin de signaler que cette présence au Louvre est probablement exceptionnelle, originale, digne d'une attention particulière. Le fait de mettre en relation l'art, disons, chrétien, européen, habituellement présenté dans les musées d'Europe comme à Paris, Berlin, Londres, avec des œuvres d'art ou des pièces ou des sujets extra-européens, c'est-à-dire qui, du point de vue des Européens, viennent d'ailleurs. Évidemment, cette question de point de vue est une question toute relative. C'est extra-européen quand on parle comme un Européen, mais ne fait pas sens. En tout cas, cette idée de mettre ensemble ces arts qui paraissent ou dont on considère qu'ils sont très différents n'est pas une idée unique et n'existe pas seulement au Louvre. Elle a été explorée ou testée ou mise en scène récemment à Berlin dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Incomparable, Unvergleichlich. Vous voyez ici l'affiche qui décore le Bode Museum, qui est sinon le musée de la sculpture byzantine et médiévale jusqu'à la Renaissance, dans lequel ont été exposées des œuvres d'art africaines. Mais cette pratique à Berlin a aussi elle-même une très longue tradition. Vous voyez ici, pardon, l'affiche, donc au-delà de la comparaison, avec cette drôle de croix rouge d'ailleurs qui croise l'affiche et qui semble nier la comparaison elle-même, une iconographie étrange. En tout cas, cette tradition de mettre ensemble des œuvres du Bode Museum à Berlin avec celles qui viennent du musée d'ethnologie, comme c'était le cas dans l'exposition que je viens de nommer, est une tradition très ancienne, puisque déjà en 1919, un réalisateur de films, un pionnier du cinéma allemand, Hans Kurlis, avait réalisé des centaines d'heures de tournage avec des statues venant à la fois d'Europe, de Bavière, comme vous voyez ici au milieu par exemple, et d'Asie ou d'Afrique. Donc une longue tradition, et on reviendra tout à l'heure à la fin sur ce qui s'est passé au Louvre avec ces longues traditions. Alors avant de m'engager dans le vif du sujet, quelques indications bibliographiques très succinctes. Je me suis appuyée sur un article de 2015 d'Annie Cobet intitulé « Adrien de Lomperrier et le musée des antiques américaines au Louvre ». Annie Cobet, que voici, a publié un très grand nombre d'articles exceptionnels et d'ouvrages sur l'histoire, notamment du département des Antiquités orientales et des fouilles, département qu'elle a dirigé pendant de nombreuses années. Et son article ici sur Lomperrier, qui n'est pas donc au centre de ses préoccupations scientifiques, est remarquable parce qu'il s'appuie notamment sur des découvertes d'archives. Elle y thématise le fait qu'en 1850, comme vous le voyez noté ici, ouvrait au musée du Louvre un musée des antiquités américaines et un musée d'ethnographie. Et vous le voyez, tout cela s'appuie sur la découverte d'archives inédites relatives à la création du musée des antiquités américaines dans le Louvre de Napoléon III. Par ailleurs, je me suis appuyée sur un ouvrage intitulé « Le scandale des arts premiers, la véritable histoire du musée du Quai Branly » de Bernard Dupaigne, Bernard Dupaigne que vous voyez ici, qui est lui aussi un homme de musée, qui a été longtemps conservateur au Musée de l'Homme. Et peut-être que c'est l'occasion pour moi ici, à ce moment-là de ce long cours, de saluer le travail de ceux qui, dans les institutions, travaillent sur l'histoire de leurs collections. Donc, non pas seulement sur les collections, mais sur l'histoire de leur formation, l'histoire des choix qui ont mené à telle ou telle décision. Et je dois dire que pour le Louvre, ce travail est extrêmement bien publié et que quand on n'est pas soi-même dans l'institution, on a la chance de pouvoir travailler sur un matériel remarquable. Et donc, voilà, j'en profite, même si c'est seulement à sec, comme ça en ligne, pour saluer ce remarquable travail en citant aujourd'hui simplement ces deux auteurs et autrices, mais en ayant cité plusieurs autres déjà dans les leçons précédentes, et je vais continuer de le faire par la suite. Alors, première partie, les musées disparus. Je viens de le dire, on va s'intéresser à l'année 1850, à la création simultanée du musée américain, comme on a pu l'appeler, et du musée d'ethnographie. Si on regarde un guide de voyage du milieu des années 50, un guide très, très diffusé, très lu, très utilisé, comme celui-ci, le guide classique du voyageur en France et en Belgique par Richard, publié en 1854, on constate que le Louvre, ce qu'on appelle le Louvre, était en fait un ensemble constitué alors de 13 musées. Les musées impériaux du Louvre, ils sont au nombre de 13, nous dit l'auteur, savoir, premièrement, le musée des tableaux des écoles françaises, italiennes, allemandes, hollandaises et flamandes dans la Grande Galerie et le Salon Carré. Deuxièmement, le musée de l'école française avec le Salon des Sept Cheminées. Troisièmement, le musée aux galeries des dessins suivi des salles de la calcographie. Quatrièmement, musée des émaux, bijoux et objets. On continue comme ça. Cinq, musée des antiquités grecques et égyptiennes dans l'ancien musée Charles X. Six, musée des souverains sous la colonnade. Sept, en vert, il a disparu, le musée naval comportant 10 ou 11 salles. 8. Le musée ethnographique à l'extrémité du musée naval. 9. Musée des antiques comportant 800 statues et bas-reliefs grecs et romains. 10. Musée de la sculpture égyptienne. 11. Musée de la sculpture du Moyen-Âge. 12. Musée de la sculpture moderne. 13. Musée de Ninive dans l'aile nord. Et 14. Un musée disparu, le musée mexicain, auquel s'est ajouté, 10 ans après la publication de ce guide, le musée Napoléon III, avec la collection Campana et le résultat des fouilles en Grèce, Turquie, au Moyen-Orient, entreprises à la demande de Napoléon III après la guerre de Crimée. Alors on va s'intéresser
aujourd'hui simplement aux numéros 7, 8 et 14, musée naval, musée ethnographique et musée mexicain. Vous allez les voir qu'ils fonctionnent ensemble et qu'ils ont été créés au même moment. Alors pour ce qui concerne le musée américain, il a été publié un catalogue dès 1850, dont vous voyez ici la première page, et je prends plaisir à zoomer dans cette reproduction de qualité puisqu'on arrive même à voir la qualité de ce papier du 19e siècle, si beau, si résistant et qui fait tellement plaisir quand on travaille avec ces catalogues, pas seulement en ligne, c'est un grand privilège de pouvoir le faire sur Internet, mais aussi quand on les a vraiment dans les mains.
Il s'agit donc de la notice des monuments exposés dans la salle des antiquités américaines, ouvrez la parenthèse Mexique et Pérou, au musée du Louvre, par Adrien de Lomperrier, conservateur des Antiques.
Donc, à partir de 1850, il existe une salle des antiquités américaines qui va finalement finir par s'appeler le musée américain. Adrien de Lomperrier, l'auteur de cette notice, le voici dans une caricature à charge de Giraud, avec un objet indéfinissable pour moi en tout cas, dans les mains, une clé de l'institution du Louvre, quelque chose pour épousseter les objets probablement, et puis dans la poche arrière, dans la poche de sa redingote, un objet égyptien. À propos de Henri-Adrien Prévost de Lomperrier, Annie Cobet, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, écrit « Étonnant personnage qu'Henri-Adrien Prévost de Lomperrier ». Né à Paris le 21 septembre 1816, élevé à Meaux sans aller à l'école, il apprit le grec, le latin, l'hébreu, le persan, l'arabe et se mit très jeune à publier des études de numismatique, séleucide et sassanide. Esprit caustique, dessinateur de petites caricatures et pris de citations calembours et de calembredaines, de coq à l'âne et des histoires de l'autre monde, des citations de vieux vaudevilles, des rébus et des logogriffes, des quatrains pleins de malice et de drôlerie à écrire sous les charges de Giraud, voilà le Lomperrier que l'on rencontrait dans les couloirs du Louvre et sur le pont des Arts, fin de la citation, comme le raconte Philippe de Chenevière. Adrien de Lomperrier ne s'est pas occupé seulement des antiquités américaines, mais on le voit ici, il était à cheval sur plusieurs départements, si on veut, et surtout, il était quelqu'un d'autodidacte, donc il n'était pas formé scientifiquement comme on pouvait l'être dans sa génération à l'époque, et donc peut-être pour cette raison qu'il s'autorise à des rapprochements ou qu'il ose pousser des projets qui n'auraient pas été poussés dans d'autres contextes. Le 11 février 1847, je continue de citer l'article d'Annie Cobet, il entrait au musée du Louvre en remplacement du comte de Clarac récemment décédé. Sa lettre de nomination, signée par Montalivet, intendant de la liste civile du roi, l'instaurait conservateur des antiques du musée royal qui comprend les musées égyptiens de toutes époques, les monuments orientaux, arabes, hindous, etc. Donc ici, au milieu du 19e siècle, en 1847, on est dans un musée qui semble être sans hiérarchie, qui semble comporter, et ça nous interroge, des antiquités hindoues, et cette présence très hétéroclite d'objets tels qu'ils sont décrits ici n'est pas une exception en Europe à ce moment-là. Si on regarde les musées de Berlin, par exemple, et l'île des musées, juste dans ces années-là, en 1850, va être inauguré le musée neuf, le Neues Museum, qui va accueillir précisément lui aussi ce genre d'antiquité. On est à une époque où l'histoire de l'art et les gens de musée considèrent que l'art est une possibilité de tous les peuples, comme l'a pu l'écrire l'historien de l'art allemand Franz Kugler, une possibilité de tous les peuples à égalité en quelque sorte, d'une part. Donc les choses entrent dans l'institution sans trop d'hiérarchie, c'est l'une des raisons. L'autre raison pour ce qui concerne le Louvre en particulier, c'est qu'il a été, comme il s'en plaint pratiquement jusqu'à l'heure actuelle, dépossédé, c'est son expression, c'est son point de vue, en 1815 des richesses conquises, spoliées dans le reste de l'Europe, et qu'il fallait, comme le dit Jean-Luc Martinez, que j'ai cité la semaine dernière, combler les lacunes. Donc dans les années 20, 30 jusqu'aux années 40, dans les trois décennies qui suivent l'Empire, le musée accumule, et sans faire de hiérarchie entre ce qui est européen et ce qui ne l'est pas. Continuons sur la piste d'Adrien de Lomperrier. Comment se fait-il qu'à Paris, et pas seulement à Paris, je viens de le dire, la dynamique est semblable à Londres aussi et à Berlin, arrive dans les années 40, ou plus tard dans les années 40 à ce moment-là, des pièces venues des Amériques, du Mexique notamment. C'est lié à la décolonisation du Mexique. Comme vous le savez, en 1821, le Mexique a acquis son indépendance après trois siècles de colonisation hispanique, espagnole. Vous voyez ici l'acte d'indépendance du Mexique, acte d'indépendance qui, du point de vue européen, enlève le monopole espagnol sur le Mexique et va permettre à d'autres nations de prendre leur marque pour des raisons commerciales, pour des raisons diplomatiques, mais également pour des raisons archéologiques. Si bien que dès le milieu des années 20, la fin des années 20, les années 30, on voit apparaître sur le terrain mexicain des acteurs qui vont commencer à tenter d'exporter, de faire venir en Europe des antiquités mexicaines qui jusqu'alors, sur lesquelles l'Espagne, le royaume d'Espagne avait la main. Dès la création du Royaume du Mexique, un musée est créé pour protéger les antiquités et pour les garder sur place, mais vous allez voir que ce règlement va être transgressé par certains. Certains, ce sont les intellectuels de l'époque. Je vous montre ici à gauche le jeune Alexandre de Humboldt qui lui-même avait fait, sous la période coloniale espagnole, un long voyage en Amérique, et vous voyez à droite, on ne connaît pas son visage, on ne connaît d'ailleurs même pas son prénom, l'un des principaux collectionneurs auquel le Louvre doit ensuite son musée américain, qui s'appelle La Tour à l'Art. Nous sommes là au milieu des années 20, et je vous montre une lettre, ou la copie d'une lettre, adressée par le baron de Humboldt, par Alexandre de Humboldt, à ce monsieur La Tour à l'Art. Je ne puis vous remercier assez vivement, monsieur, du plaisir que m'a causé la vue des objets que vous avez recueillis au Mexique et qui répandent un nouveau jour sur une partie presque inconnue de l'histoire du genre humain. C'est la collection la plus complète qu'on ait faite en ce genre et qui se lie à l'idée si heureusement conçue de suivre le progrès des arts chez des peuples à demi barbares.
C'est par des comparaisons aussi qu'on parviendra peut-être à éclairer le fait si mystérieusement curieux de l'image d'une croix et même de l'adoration d'une croix dans les ruines de Palenque à Guatemala. Il serait digne de la munificence d'un monarque de faire déposer les dessins de M. Dupay, dont je connais la scrupuleuse exactitude, dans une grande collection, etc.
Ici, on voit qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre, qu'est-ce qui se cache derrière. La Tour à l'art a rapporté des antiquités mexicaines qui avaient d'abord été dessinées par Guillermo Dupay. Ses dessins devaient rester des dessins et les objets devaient rester au Mexique, mais la Tour à l'art réussit à les faire venir en Europe et tente de les vendre à différents musées européens, notamment au Louvre. Et Alexandre de Humboldt l'appuie en vain dans cette tentative de vendre sa collection au Louvre.
C'est intéressant. Voilà l'un des dessins de Dupay qui représente un objet qui est aujourd'hui au musée du Quai Branly et qui a été au musée américain du Louvre. C'est intéressant puisque on sait que la Tour à l'art échoue dans les années 20 à vendre sa collection au Louvre, qu'il n'y parviendra que dans les années 40 et que, entre-temps, certains empêchent en Europe que cette vente se fasse. Je vous cite l'extrait d'un article publié dans la revue Gradiva, dont je donnerai la référence exacte dans un instant. Je vous cite un extrait.
Au nom du gouvernement mexicain, un certain Murphy a été chargé par Sebastián Camacho, 1791-1847, ministre de la République des États-Unis du Mexique à Londres, de s'informer avec discrétion sur l'achat et la sortie du Mexique de la collection acquise par la Tour à l'art. Murphy, indigné par cette vente, va procéder à une véritable enquête policière pour connaître les détails de cette opération, envoyant une personne de sa connaissance auprès de la Tour à l'art.
Alors, si vous voulez avoir les résultats de l'enquête policière,
lisez « Six personnages en quête d'objets, histoire de la collection archéologique de la Real Expedición Antiquaria en Nouvelle-Espagne » de Marie-France Fauvet-Bertolo, Léonard López-Lourán et Susana Guimaraes, paru en 2007, qui reconstitue les détails de cette translocation transatlantique.
Finalement, le Louvre va se porter acquéreur à la fin des années 40 de la collection La Tour à l'art, et comme le signale Lomperrier dans l'avant-propos de sa notice du musée américain, et je vous lis un extrait de la préface de la notice de Lomperrier à ce musée américain, dans lequel il est dit, je cite,
« L'Amérique, ce monde relativement nouveau pour les Européens, possède de nombreux et splendides monuments d'un passé presque entièrement inconnu. Les grands édifices, les statues colossales, les pyramides immenses qui existent au Mexique, dans le Yucatan et au Pérou, sont autant de témoins d'une civilisation avancée, quoique d'une essence particulière. »
Ici, le conservateur de musée argumente avec la qualité de la civilisation repérée. Il argumente avec la nouveauté et l'originalité des objets liés à cette civilisation. Et dans la même préface, surtout, pourrait-on dire, il met en relation les antiquités mexicaines avec ce qu'on connaît déjà en Europe à ce moment-là, c'est-à-dire les antiquités égyptienne.
Je vous le montre ici, donc à la fin de l'avant-propos, il est question du musée égyptien et d'une comparaison entre les antiquités égyptiennes et mexicaines. Assurément, écrit Lomperrier, les antiquités de l'Amérique n'offrent pas le puissant intérêt que les monuments de l'Égypte doivent à leur liaison intime avec notre histoire sacrée.
Mais, poursuit-il, elles sont néanmoins intéressantes, elles attisent la curiosité. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est comment l'Égypte est liée. Souvenez-vous de l'archéologie biblique, de l'idée bien soulignée dans les années 1950 que le Louvre, c'est nous les Européens, c'est nos civilisations nourricières, nos civilisations maîtres. Je cite ici Georges Salle. Donc ici, on voit bien la distinction que fait Lomperrier entre ce qui est nous, c'est-à-dire l'Égypte, et ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire le Mexique. Extrêmement intéressant. Et la fin de son avant-propos finit par une vision d'avenir. Il s'agit des œuvres d'un grand peuple qui, par son entrée dans l'Union américaine, se trouve appelé à jouer un rôle important dans l'histoire à venir. Ici, il est fait allusion donc à l'indépendance du Mexique et à sa place désormais de pays décolonisé dans le monde.
Et quand on repense à cette campagne d'affiches, en tout cas à la seconde intitulée « Ensemble au Louvre », on voit qu'il n'y a rien, à vrai dire, de nouveau dans cette mise en relation, puisque dès la présence mexicaine au Louvre, dès que le Louvre devient un peu américain, il le fait en s'aidant, du verbe aider, en s'aidant la connaissance de l'Égypte et en créant ce lien qui pour nous paraît inattendu, mais qui est le lien d'entrée, qui est la porte d'entrée des antiquités mexicaines au Louvre. Récemment a eu lieu au Louvre une exposition intitulée « Le Mexique au Louvre », mais là, on voit bien comment c'est un autre Mexique qui a été mis en scène.
Il s'agissait du regard de peintres espagnols à l'époque coloniale, sur le Mexique
colonisé. Et d'ailleurs, The Art Newspaper, quand il faisait un compte-rendu de cette exposition, l'inscrivait, et ça m'a amusé de le voir, dans la rubrique art colonial, en signalant que non seulement le Louvre exposait de la peinture de peintres espagnols colonisateurs au Mexique, mais qu'il souhaitait, le Louvre, l'institution, acquérir des peintures de ce type pour élargir son horizon, de même qu'on a entendu il y a quelques semaines qu'il cherchait à élargir, à agrandir sa collection d'icônes russes et grecques.
Donc, on le voit ici, si on commence à réfléchir à la présence, par exemple, du Mexique ou des Amériques au Louvre, on est tout de suite dans ces grandes questions coloniales, décoloniales, des antiquités donc aztèques antérieures à la période espagnole, mais aussi à cette période espagnole. Et tout ça ensemble, c'est heureux de le penser, en fait, au-delà et en faisant disparaître les frontières de départements très strictes qui existent. Et actuellement, le département des peintures, le département des antiquités, et c'est heureux aussi de ressusciter, de raviver ces musées disparus, comme le musée américain qui disparaît en 1887, au moment où va être créé le musée d'ethnographie du Trocadéro. J'y reviendrai dans un instant. Alors, si on revient à ce rapprochement entre les antiquités mexicaines et les antiquités égyptiennes. Et si on revient surtout à l'article d'Annie Cobel, je voudrais la citer parce qu'elle propose une explication pour l'intégration des antiquités égyptiennes avec les antiquités et la création la même année d'un musée ethnographique, une explication qui m'a paru extrêmement convaincante et que j'aimerais citer ici.
Bien que les responsables du Louvre ne s'en expliquent pas clairement, la répartition qu'ils donnent des fonds anciens entre musée des antiquités américaines et musée ethnographique obéissait de fait à une distinction entre objets enfouis, donc antiques, qui seront classés de la même manière que les antiquités non classiques, et les objets fabriqués et utilisés par des peuples exotiques contemporains qui constitueront les collections ethnographiques. Il s'agit là d'un critère factuel, objectif, d'où toute idéologie est absente.
J'aime beaucoup l'idée formulée ici, selon laquelle un musée fait une différence entre les objets sous terre et les objets au-dessus de la terre. Comme si c'était cette croûte terrestre, en quelque sorte, qui opérait la distinction et qui donnait aussi son sens à ces départements qui, peut-être, pour l'usager extérieur à l'institution muséale, peuvent paraître abstraits. Et en tout cas, en ce qui concerne la distinction entre musée ethnographique et musée d'art, il s'agit d'une distinction extrêmement discutée et discutable. Donc, je trouve cette hypothèse ou cette interprétation d'Annie Cobel très utile et pour plein d'autres domaines que celui qui nous occupe à l'instant. Si on consulte un autre guide de Paris et du Louvre dans les années 70, donc peu avant que le musée américain ne disparaisse en 1887 au musée d'ethnographie, ne déménage, on peut lire la chose suivante, je le cite.
Le musée américain, dont l'entrée se trouve dans la salle ethnographique, occupe un corridor par lequel on descend à la 9e salle, numérotée la 6e, du musée des dessins. Il comprend seulement des antiquités, quelques figures d'hommes ou de femmes, en lave, en granit, en grès, de nombreuses mais très imparfaites ébauches, etc.
Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'il y a un lien spatial entre le musée mexicain, américain, d'une part, et le musée d'ethnographie. Donc, que la séparation que je viens d'évoquer, la séparation d'Annie Cobel, en quelque sorte, entre ce qui est en dessous et ce qui est en dessus, en tout cas, dans ce guide de voyageurs-là, et à défaut d'illustrations représentant le musée américain, à notre connaissance actuelle, nous montre, en tout cas, cette proximité, ou en tout cas, cette proximité construite par l'auteur de ce guide. En 1850, en effet, et j'en arrive à l'autre musée créé cette année-là, est inauguré le musée ethnographique du Louvre. Il est annoncé, par exemple, dans le journal quotidien Le Constitutionnel du lundi 12 août 1850, où l'on peut lire, je le cite, « Ainsi qu'on l'avait annoncé, à 10h ce matin, a eu lieu au Louvre l'ouverture d'un nouveau musée, sur le haut de la porte duquel on lit en lettres d'or « Musée ethnographique 1850 ». Ce nouveau musée est situé dans le pavillon nord-ouest du palais, au deuxième étage, et au bout du musée de la Marine. On arrive aux nouvelles salles par ce musée-là. Le musée ethnographique occupe une grande salle de 100 mètres carrés qui portait jadis le nom de salle de Beauvais. Deux grandes armoires et une vingtaine de montres composent cette exposition de statues, statuettes, meubles dorés, bas-reliefs, momies, dieux, déesses, fétiches, instruments de navigation et de tout genre, outils, étoffes, livres, gravures, vêtements, chaussures, bijoux, ornements, chefs-d'œuvre d'ivoire, armes défensives et offensives, reliques, amulettes, produits chimiques, papiers de tenture, instruments de jongleurs et d'escamoteurs, etc., etc. Le tout appartenant à la Chine, au Japon et aux peuplades sauvages à peu près de tous les lieux.
Alors le vocabulaire est ce vocabulaire qu'on avait tout à l'heure aussi chez Alexandre de Humboldt, de l'européen arrogant. Ici, il est question de peuplade sauvage. Dans le cas d'Alexandre de Humboldt, il évoquait des peuples semi-barbares ou demi-barbares. Donc ici, la distanciation entre soi, entre ce qu'on est soi, européen, et les autres, les barbares, les non-civilisés, est bien affirmée avec beaucoup d'aplomb, d'une part, et d'autre part, est décrite ici un musée extrêmement hétéroclite dont la collection correspond en réalité, on se l'explique, par le hasard de voyage, d'où le lien avec le musée de marine, le musée naval. Hein. C'est ce que les explorateurs, d'une part, mais de plus en plus au milieu du 19e siècle, les colonisateurs vont rapporter des contrées qu'ils occupent, qu'ils conquièrent et qu'ils occupent, qui viennent remplir ce musée-là, sans ordre, disons, ou sans concept scientifique. Et cette absence de concept scientifique est exactement ce qui va être reproché déjà, dès ces années-là, à l'institution. Je vous montre deux gravures pour que vous puissiez vous faire une idée de ces salles. D'abord, du musée de marine ici, qui montrait donc des maquettes de bateaux, des bustes de navigateurs célèbres et des scènes des marines, des scènes maritimes. Et donc contiguë ou après les 10 ou 11 salles du musée de marine, on arrivait dans le musée ethnographique et vous voyez à la mise en scène ici qu'il s'agit, les soleils là, qu'on voit sur les murs sont en fait des trophées d'armes et de flèches et de boucliers. On voit des pièces venues d'Asie directement ici sur la droite, par exemple, à proximité immédiate de portraits qui pourraient être les portraits d'Indiens de Kathleen qui étaient exposés là. Et le dessinateur suggère, évidemment c'est une construction comme toujours, la présence de badauds. Ce musée d'ethnographie au Louvre, je l'ai dit, n'est pas une singularité du Louvre. Le British Museum, dans les mêmes années, s'ouvre aux collections ethnographiques également. Les musées de Berlin aussi, même si ce n'est pas dans les mêmes salles. C'est dans le Neues Museum, mais pas dans les salles consacrées à l'art antique et à l'art européen. Mais en général, à cette époque-là, ce sont les musées de l'armée, les musées d'artillerie, les musées militaires qui ont des collections ethnographiques. Et on voit bien, donc, au Louvre, comme dans les musées de l'armée, comme au British Museum et comme à Berlin, le lien inextricable entre la naissance de ces collections ethnographiques et la colonisation du monde, notamment du Pacifique et de l'Afrique, par les puissances européennes.
Vous voyez ici la couverture d'un catalogue de la galerie ethnographique du musée de l'artillerie à Paris. Alors, j'aimerais faire référence ici à un autre article, un article critique qui a été publié par Olivier Jacquot, coordinateur de la recherche à la Bibliothèque nationale de France, qui a trouvé un texte très intéressant des années 1850, de l'année 1850, sur ce musée ethnographique, vu d'un point de vue déjà à l'époque très critique. Cet article est paru dans Le Siècle, journal politique, littéraire et d'économie sociale, le 20 octobre 1850, et je relève quelques-unes des phrases intéressantes en vous renvoyant à la notice d'Olivier Jacquot, qui est remarquable et qui renvoie en plus à de la littérature complémentaire directement sur le site de Gallica. C'est l'occasion d'ailleurs de redire combien, en particulier en cette période de pandémie, nous autres pouvons être heureuses et heureux d'accéder à toutes ces sources numérisées, non seulement sur Gallica, mais par exemple sur le site de l'Université de Heidelberg, qui nous permet depuis chez nous d'entrer directement dans le 19e siècle. Et le 19e siècle est sans doute le mieux représenté dans ces bases de données numériques. Donc, hommage et remerciement de ma part à ce moment-là. Je relève simplement quelques phrases dans cet article sur l'ouverture d'inauguration du musée ethnographique au Louvre.
Je les lis. Nous regrettons qu'un catalogue n'ait pas été imprimé qui donne au public la clé de bien des détails qui constituent pour lui autant de mystères.
Passage intéressant, donc, le regret d'explication, le regret d'éléments pédagogiques pour le public. Et ici, l'auteur fait la différence entre les badauds qui n'y comprennent rien et ceux qui viennent et s'intéressent réellement aux objets qu'ils voient. Je poursuis la lecture.
Cette collection ethnographique est maintenant confiée au conservateur du musée de marine et elle est traitée un peu trop comme cette dernière partie du Louvre. Cependant, outre les modèles de navires qui, à la rigueur, peuvent être contemplés par les badauds sans aucune explication et l'immense variété que le pavillon de Beauvais enferme, il faut faire quelques différences.
Ici encore, donc, la plainte principale, c'est l'absence d'informations pour le public.
Continuons la lecture. Autant que nous avons pu en juger, les armes, ustensiles, costumes contenus dans les armoires sont groupés par grandes divisions, suivant qu'ils appartiennent à l'Europe, à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique ou aux îles de l'Océanie. Et dans chacune de ces classes, on a peine à se reconnaître. Nous ne parlons pas seulement de ce qui provient de l'Inde et de la Chine. Là, les caractères bien tranchés du style aident à se débrouiller. Mais l'Afrique et l'Océanie sont loin d'être connues pour le public et la confusion devient inévitable.
Je marque cette phrase de point d'exclamation parce que, souvenez-vous, lors de la troisième séance consacrée aux visiteurs et visiteuses étrangers, nous avions évoqué
cet échange de tweets entre deux conservateurs de musées, l'un du Louvre, qui Nicolas Milovanovic, qui reprochait à un militant, entre guillemets, décolonial, de confondre une œuvre africaine et une œuvre indonésienne. Et puis la réponse de son collègue d'Oxford, Dan Hicks, qui considérait que c'était un problème du musée si les visiteurs ne faisaient pas la différence. Et on constate ici, en 1850, que le problème est lié déjà à la mise ensemble d'objets sans explication dans cette galerie d'ethnographie du Louvre. Et vous verrez que le pavillon des sessions ouvert en 2000 n'a pas changé la donne. Et je trouve cette continuité extrêmement intéressante, puisqu'on comprend que depuis plus de 150 ans, aucun effort n'a été fait pour que le grand public fasse la distinction. Et c'est ce que reproche ici l'auteur de cet article déjà à l'institution. Je poursuis la lecture. L'aspect général de cette salle est froid et sombre. Les grandes tables et les armoires de chêne qui ont été maladroitement salies d'une ignoble couche de badigeon rouge, faisant des efforts infructueux pour imiter l'acajou, ajoutent encore à la tristesse de la galerie. Elle est mal éclairée, les fenêtres sont basses et étroites, le jour est toujours douteux, même par le plus beau soleil.
Problème de muséographie, donc, de mise en scène. Ici, cette mise en scène triste rappelle plus tard des considérations sur les tristes tropiques, sur peut-être le caractère fantomatique des colonies en Afrique, Afrique fantôme de Michel Léris. On pense à cette atmosphère dès les années 1850 et étrangement, elle est déjà présente à l'origine, à l'ouverture, le jour même de l'ouverture, elle est perceptible par le public. Je finis par un dernier extrait qui va faire le pont avec notre partie suivante, je la lis.
Des armes de bois dur très finement sculptées, des armes à ornements d'argent et de fer blanc du Galas, les meubles et la vaisselle d'argent trouvés dans la casbah du pacha Hussein, dernier dey d'Alger, composent tout l'apanage de l'Afrique. Les armes sont belles, mais elles sont alourdies par ces éternelles damasquineries arabes qui sont, dit-on, fort belles sur les sabres des morts d'Espagne, mais qui à coup sûr sont horribles, exécutées par nos Arabes modernes.
Nos Arabes modernes, le possessif de la deuxième personne, lit le fait dans cette description que l'Afrique n'est représentée que par l'Algérie, qu'on évoque le dernier dey d'Alger soumis à la puissance des armes françaises. On est en plein moment de la colonisation de l'Algérie, nous rappelle à cet endroit-ci que le Louvre, et on l'avait déjà vu dans les séances précédentes, et l'histoire du Louvre, l'histoire de ses collections, même celle des musées disparus, mais pas seulement deux, est inextricablement liée à l'histoire de l'expansion coloniale française dans le monde, et plus généralement à celle du projet colonial, de la folie coloniale de l'Europe au XIXe siècle dans le monde. En 1887, finalement, est créé le musée d'ethnographie du Trocadéro. La même année est créé à Berlin un musée d'ethnologie. Donc, on est dans une logique absolument européenne, logique qui revient pour les Européens, pour Paris, pour Berlin. Londres fait la même démarche à peu près au même moment, à séparer ce qu'on considère comme relevant de soi, de sa propre histoire biblique notamment, européenne, chrétienne, des autres civilisations. Les arts, donc, ou la collection du musée ethnographique du Louvre et celle du musée naval, étant envoyées désormais au musée du Trocadéro à Berlin. Ce sont les collections qui sont sur l'île des musées, qui quittent l'île des musées pour aller du côté de ce qui est aujourd'hui la Potsdamer Platz. Cette séparation entre nous et les autres se fait à la fin du 19e siècle, dans le dernier tiers du 19e siècle, après un long moment où ces musées européens avaient tenté d'absorber, pris ces autres civilisations en considérant leur altérité, en la soulignant. Mais à partir donc des dernières années du 19e siècle, nous et les autres sont deux projets absolument différents. Et on peut dire qu'au XIXe siècle, il y a eu au Louvre, de manière très visible, et on l'a évoqué dans toutes les séances qui ont précédé jusqu'à aujourd'hui, une sorte de travail de la collection qui aboutit à la définition de ce qui est nous, qui aboutit à des phrases comme celle de Georges Salles au milieu du XXe siècle, en 1950, qui peut affirmer « le Louvre, c'est nous, c'est notre espace de confort, c'est ce que nous sommes devenus comme civilisation, même si ça intègre ce qui, à l'époque, est devenu l'Irak ou l'Iran, mais ça exclut des continents entiers, en fait les trois quarts du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique. Deuxième partie, le musée africain. Alors du musée africain, on a gardé dans la mémoire collective du Louvre sans doute aucune trace, mais néanmoins, souvenez-vous, lors de notre deuxième séance consacrée aux visiteurs et aux visiteuses du Louvre, nous avions évoqué cette caricature parue en 1911 consacrée au caractère corruptible des gardiens du Louvre, sur laquelle on voyait deux visiteurs élégants en dialogue avec un gardien du Louvre, et le dialogue était le suivant, je vous le lis. « La mendicité est interdite », le gardien dit au visiteur, « la salle des antiquités de l'Afrique du Nord est fermée, faute de pouvoir y mettre un gardien, personne n'a le droit d'y entrer ». Les visiteurs répliquent, « pourtant nous venons d'y apercevoir quelques étrangers », et le gardien répond, « je vais vous dire, comme ils ignorent le français, ils n'ont pu lire la pancarte qui interdit les pourboires. » Alors, dans cette caricature de 1911, le titre de musée africain ou musée ou salle africaine est explicité. Il s'agit, j'allais dire, bien sûr, des antiquités de l'Afrique du Nord, colonie française à ce moment-là, donc d'antiquités venues d'Algérie et de Tunisie, et non pas comme on aurait, en étant tout à fait naïf peut-être, pu le penser, des pays d'Afrique au sud du Sahara. Eux n'ont pas été présentés au Louvre. Alors que sait-on de ce musée africain? Je le disais tout à l'heure, il fait l'objet d'une certaine forme d'amnésie, on l'a oublié, et c'est simplement en feuilletant l'histoire des collections et notamment l'histoire du département des antiquités grecques, étrusques et orientales, comme dans l'article que j'ai déjà cité la semaine dernière de Jean-Luc Martinez, qu'on n'en trouve la trace. En feuilletant cet article, ce que j'ai fait pour vous et avec vous aujourd'hui rapidement, on voit que les premières antiquités qui vont fournir cette salle d'Afrique arrivent dans les années 1840, au moment de la colonisation de l'Algérie par la France. Il est question ici des antiquités rapportées d'Algérie par le capitaine de Lamarre et entrées au Louvre en 1845, donc dans le contexte évidemment militaire et colonial des années 1840. Quelques pages plus loin, il est question de la mission d'Antoine Héron de Villefosse en Tunisie et également de la curieuse société des fouilles d'Utique fondée en 1881 à l'initiative du comte d'Hérisson qui,
après une vive polémique, je cite Jean-Luc Martinez, fait entrer au Louvre des mosaïques et des objets de ce site du nord de la Tunisie, où, toujours de Tunisie, les antiquités rapportées en 1890 par le commandant Marchand. L'arrivée des objets archéologiques se poursuit au début du XXe siècle. Le père Delâtre et les pères Blancs explorent Carthage au tournant du siècle.
Donc on le voit bien ici, la venue, l'exportation, l'extraction d'antiquités d'Afrique du Nord à la fin du XIXe, enfin pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, est intimement liée à la situation coloniale des régions citées et au pouvoir qu'a la France de s'approprier cette antiquité et de la déplacer. C'est la raison qui explique qu'aujourd'hui encore, le Louvre possède des antiquités de Carthage, Carthage étant située dans l'actuelle Tunisie. Si on continue la lecture de cet article, on arrive à la fin de ce musée africain, on arrive au moment de sa disparition, elle est mentionnée ici, je vous lis ce passage.
Le démantèlement de la salle d'Afrique a été favorisé par l'exposition coloniale de Vincennes en 1931 et par la création d'un musée africain, Porte Dorée, qui comprendra une section antique de 1938 à 1968.
Alors là, c'est très frappant, hein. On voit bien que la distinction qui s'est opérée depuis tout à l'heure avec la séparation de l'ethnographie envoyée loin, hors du Louvre, mais ici, dans les années 30, la projection du pouvoir colonial sur ces antiquités-là qui vont aller nourrir un musée d'affirmation politique, d'affirmation coloniale à la Porte Dorée, on voit bien ici combien le musée est une institution politique et que les distinctions scientifiques pèsent moins que certaines distinctions politiques. D'une part, d'autre part, souvenez-vous, on avait vu le même mouvement affecter le département des peintures, puisque au moment de la création du musée de la Porte Dorée, les petites peintures exquises de Franz Post représentant le Brésil, peinture donc d'un peintre hollandais du XVIIe siècle, avaient aussi alimenter le palais des colonies à la Porte Dorée, avant de revenir dans les années 50 au Louvre, où elles ont leur place comme peinture européenne. Donc là, vraiment une discrimination, en fait, une sortie, une séparation politique d'un ensemble archéologique qui lui-même était venu pour des raisons politiques au Louvre, des raisons politiques et militaires liées à la colonisation. Donc, je le disais tout à l'heure, de ce musée africain, on a presque tout oublié, il ne reste que presque plus de traces, il est disparu sous une épaisse couche d'oubli. On n'a pas de représentation des salles, à ma connaissance en tout cas.
La seule publication qui existe est celle-ci, dont je vous montre la couverture, le Musée africain du Louvre par Héron de Villefosse, publication qui, quand on voit la couverture en entier, rappelle bien qu'il s'agit des collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie, et donc de colonies françaises.
Alors, troisième partie, scission et cession, qu'on pourrait aussi appeler le retour du même différent. Revenons à notre affiche initiale. Ici, c'est bien l'Afrique au sud du Sahara qui est représentée, un reliquaire biri venu du Gabon, créé au XIXe siècle, qui est mis en relation ici avec un reliquaire médiéval européen, avec cette affirmation de la communauté, de la proximité, de la familiarité des deux, ou en tout cas de leur peut-être dialogue, même si sur cette affiche, ils nous regardent tous les deux séparément l'un de l'autre, mais cette affirmation ensemble. L'arrivée des arts venus d'Afrique, d'Asie en très faible mesure et d'Océanie au Louvre et d'Amérique a été fêtée, a été très mise en scène en l'an 2000. Elle a fait l'objet d'une attention internationale. Je vous montre ici l'un des nombreux articles publiés à l'époque, Art Premier in the Louvre, de Raymond Corbet, un auteur néerlandais, mais on pourrait en citer un grand nombre. Et surtout, elle a suscité d'importantes polémiques à Paris. Alors, je vous montre, et surtout pour les plus jeunes d'entre vous, un extrait d'un journal télévisé témoignant de l'importance de cet événement et de la manière dont il a été mis en scène à l'époque. Les plus âgés se souviennent certainement de ce moment, c'était il y a 21 ans.
Tu nous as parlé de culture en votre compagnie, car quand Jacques Chirac et Lionel Jospin se déplacent ensemble pour une même inauguration, c'est le signe d'un vrai événement. Et le président et le Premier ministre étaient ce matin au Louvre pour inaugurer le pavillon des sessions. Et ce grand projet était une des priorités culturelles de Jacques Chirac depuis son arrivée à l'Élysée en mai 95.
Et l'exposition au Louvre d'une centaine de sculptures des arts dits premiers n'est donc qu'une étape de ce projet ambitieux. Il s'agit de regrouper des œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou des Amériques.
Des œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou des Amériques au Louvre. Tout cela est présenté comme un événement original, nouveau, spectaculaire, une revanche peut-être de César sur la grande institution Louvre. C'est comme ça qu'une certaine partie de la presse l'a présenté. Mais on sait, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il existe une longue tradition cette présence. D'abord, au Louvre même, puisqu'en 1850 ouvrait le musée ethnographique et qu'il y avait aussi déjà le musée américain à ce moment-là, mais aussi parce que, par exemple, à Berlin, en 1919, un réalisateur de films, Hans Kurlis, réalisait des films où il mettait ensemble ses arts d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, avec les arts européens, dans des films d'art extrêmement intéressants. En France aussi, dans les années 20, il avait déjà été question de ce possible retour des arts qualifié alors du lointain et non pas d'art premier, de ce terme inventé à l'occasion des années 2000, pour ne pas parler d'art primitif ou d'art extra-européen. Dans les années 20, Félix Fénéon, le critique d'art, parlait, lui, d'art du lointain et avait lancé une grande campagne de questionnaires, d'interviews en deux temps, intitulée « Seront-ils admis au Louvre ? Enquête sur les arts lointains ». Donc, dès les années 20, évidemment dans un autre contexte que le contexte ethnographique du milieu du 19e siècle, avait été, qui est le contexte des avant-gardes artistiques européennes, avait été imaginé la présence de ces pièces africaines, asiatiques, océaniques au Louvre en dialogue avec les collections existantes. Le texte de Fénéon a été republié récemment, ou cette interview, et je vous en recommande la lecture. L'ouverture de la salle des sessions au Louvre et l'entrée, l'arrivée d'une centaine d'œuvres, surtout la moitié venue du continent africain et pour les autres, surtout d'Océanie, le continent asiatique étant à peine représenté, a fait l'objet de vives polémiques à Paris, je le disais tout à l'heure, qui ont été documentées dans ce livre « Le scandale des arts premiers » de Bernard Dupeigne, qui a reconstitué sur un ton polémique, lui-même faisant partie de ceux qui étaient opposés à ce projet, mais qui a reconstitué de manière très précise et précieuse les différentes positions. Le sixième chapitre est consacré à l'antenne du Louvre, comme il l'appelle, qui est intervenue quelques années avant la création du musée du Quai Branly. Il y rappelle les positions des uns et des autres, notamment celle qui a pu être formulée, entre autres, par le journal Libération et par son journaliste Vincent Noce à l'époque, qui salue la qualité de l'exposition ouverte au Louvre. Je le cite, je le lis. « La mise en scène est d'une beauté tragique, mais dans les coulisses, les dagues sont tirées. Les indications sont réduites au strict minimum. Le parti pris est purement esthétique et de ce point de vue, c'est une réussite incontestable. » Parti pris esthétique d'un côté, donc, avec une réduction pratiquement aseptisé de ces pièces qui sont dépourvues de toute explication culturelle ou ethnologique ou anthropologique.
Absence d'explication et côté aseptisé que reprochent d'autres qui sont cités dans cet ouvrage « Le scandale des arts premiers », notamment Anne-Christine Taylor que je cite ici dans un article de 2007 que Bernard Dupeigne met en rapport en relation avec l'ouverture du pavillon des sessions, je la cite. On ne comprend pas le sens qu'ont ces objets pour ceux qui les ont produits, ni leurs fonctions, ni les rites sociaux auxquels ils participent, ni même le choix de leurs matériaux, regrette Anne-Christine Taylor.
Donc, deux positions, l'une qui met en avant jusqu'à l'extrême l'esthétique des pièces, jusqu'à faire oublier l'endroit d'où elles viennent et la manière dont elles sont venues et leur usage, et d'un autre côté, le regret d'une forme de contextualisation propre à l'ethnologie et telle qu'elle avait été pratiquée, notamment au Musée de l'Homme. Alors, le président du Louvre, à ce moment-là, au moment où Jacques Chirac a voulu la création de ce pavillon des sessions, c'était Pierre Rosenberg, qui était très hostile à ce projet, qu'il a souvent dit, notamment dans cette interview au Nouvel Observateur, où il expliquait les raisons de son hostilité, des raisons qui sont liées à l'histoire qu'on vient de parcourir ces dernières semaines de l'institution Louvre, qui tout au long du XIXe siècle essaie de d'éjecter, de faire sortir de lui ce qui n'est pas nous, comme le dit Georges Salles au milieu des années 50. Une affirmation peut-être contestable, mais qui ne fait pas croire que le Louvre est un musée universel, en tout cas, qui assume son eurocentrisme. Et c'est ce que fait également Pierre Rosanberry, je le cite.
Il existe une réticence de la part du Louvre à leur installation permanente, mais pas pour des raisons de snobisme ou de sentiment de supériorité, comme on s'est attaché à le faire croire. La vocation du Louvre est de représenter l'art occidental du Moyen-Âge jusqu'à la première moitié du XIXe siècle et celui des civilisations antiques qui l'ont inspiré. Dans ces domaines, nous voulons montrer des collections dans leur entier et non un choix de chef-d'œuvre.
Et puis il explique que lorsque les arts asiatiques ont quitté le musée ethnographique et le Louvre pour rejoindre le musée Guimet notamment, ou quand l'art de la deuxième partie du XIXe siècle a quitté le Louvre pour le musée d'Orsay, rien n'y est resté. Donc il prend le point de vue d'une institution qui s'est de plus en plus focusée sur ce qu'elle considérait être comme l'Occident, à tort ou à raison. Un autre point de vue est celui de la classe politique de Jacques Chirac et de ceux qui, avec lui, ont mené à bien ce projet, qui d'une part présente l'arrivée, l'entrée des arts dits premiers, des arts d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, mais surtout donc d'Afrique au Louvre, comme une revanche de ces arts souvent négligés, c'est ainsi qu'il le présente en tout cas, ou maltraité au Musée de l'Homme, qui enfin pourrait respirer au Louvre, c'est le discours propagé à ce moment-là, et s'ajoute à cela cette conception de Jacques Chirac que je cite également.
Il fait sens pour les pays d'origine de voir leur culture reconnue digne d'être présentée dans ces murs, a souligné le chef de l'État.
Alors le motif de la dignité, c'est un motif ancien dans l'histoire du Louvre, quand Dominique Vivant-Denon sous Napoléon allait spolier les collections des princes allemands ou qu'il allait se servir en Italie pour les collections du Louvre. La formule de règle était toujours qu'il s'agissait, dans les listes qu'il laissait pour documenter ses prises, qu'il s'agissait d'œuvres dignes d'être présentées au musée Napoléon. C'était évidemment une vision très paternaliste, dominatrice des collections. La France décide de ce qui est digne d'être exposé au Louvre. Ici, c'est présenté comme une faveur faite au pays dit d'origine. Et quand on sait que Jacques Chirac et ses équipes ont osé, finalement, pour réaliser ce pavillon des sessions, procéder à des, en toute connaissance de cause, à des acquisitions illégales sur le marché des antiquités africaines notamment, on peut considérer cette phrase, cette remarque comme perverse ou même peut-être odieuse.
Je vous montre l'effet produit par ces acquisitions illégales sur l'opinion publique internationale. Ici, il s'agit d'un article du New York Times publié à l'automne 2000 qui est intitulé « Chirac exalte l'art africain de manière légale et peut-être illégale », allusion au fait que pour l'installation dans la salle des sessions avaient été acquises trois pièces antiques de la culture Nok dans l'actuel Nigeria, acquises alors que ces pièces mêmes et la culture Nok en général étaient inscrites sur la liste rouge des œuvres qu'on ne peut pas exporter hors du Nigeria et que l'acquisition avait été faite en toute connaissance de cause de cette illégalité. L'affaire a été reconstituée par mes collègues juristes de Genève, dont je vous invite à consulter le site Artemis. Et finalement, la ministre de la Culture de l'époque, Catherine Pascal, avait été obligée de reconnaître la propriété du Nigeria sur ces pièces présentées au Louvre. Et le Nigeria, dans le cadre d'un accord, a accepté de les prêter à long terme pour le pavillon des sessions. Mais la propriété en est revenue à l'État fédéral du Nigeria. C'est extrêmement important, puisqu'ici, le prix du retour des arts dits premiers dans ce grand geste généreux accompagné de beaucoup de propagande au Louvre était inextricablement lié à un acte illégal et de dépradation
du patrimoine nigérian. Voilà pour cette traversée des musées disparus et pour ce questionnement sur ce qui est nous, ce qui n'est pas nous, du point de vue des différents moments de l'histoire du Louvre, avec un arrêt sur le musée américain et le musée dit africain de l'institution. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la séance consacrée au Louvre pendant les guerres mondiales. Je vous remercie.